Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Plus de 1500 morts depuis janvier en Haïti. La situation est cataclysmique, a averti l'ONU cette semaine en déplorant que des frontières poreuses facilitent l'approvisionnement des gangs en armes et en munitions. Des gangs qui ont uni leurs forces début mars pour attaquer différents sites stratégiques de Port-au-Prince dans l'idée de renverser le Premier ministre Ariel Henry. Bloqué à Porto Rico, territoire américain, celui-ci a finalement démissionné le 11 mars. Les gangs, eux, ne cessent d'étendre leur emprise sur la capitale, dont ils contrôlaient déjà 80%. Résultat, plus de 33 000 personnes ont fui ces dernières semaines l'insécurité de Port-au-Prince pour rejoindre les départements du Grand Sud. Et 5,5 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'aide humanitaire. Les Occidentaux, eux, évacuent leurs ressortissants. Mercredi, le futur conseil présidentiel de la transition s'est engagé à restaurer l'ordre public et démocratique en nommant dès son installation un ou une première ministre avec qui un gouvernement d'union nationale sera formé. Il a également promis de soulager la souffrance du peuple haïtien, d'organiser des élections libres et de mener des réformes nécessaires pour le progrès d'Haïti. Alors, est-ce un premier pas vers le déblocage de la crise politique ? Comment organiser des élections et mener des réformes dans un tel climat d'insécurité ? Et à qui profite cette insécurité ? Faut-il négocier avec les gangs ? Le pays peut-il être remis sur les rails tant que la justice ne passe pas? Le chaos en Haïti est-il alimenté par l'impunité? On en débat avec nos trois invités. En ligne de Port-au-Prince, Michel Auriol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, enseignante, et vous avez publié une chronologie de l'histoire d'Haïti aux éditions de l'UEH, Université d'État d'Haïti. En duplex de Bruxelles, Frédéric Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et à mes côtés en studio, Jacques Nézy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales, LC2S, et vous avez dirigé l'ouvrage collectif L'affaire Petro-Caribé aux éditions Sidika.
Si Ariel Henry pas démissionné.
Si Ariel Henry ne se retire pas, si la communauté internationale continue à soutenir Ariel Henry, elle nous conduira directement à une guerre civile qui se terminera par un génocide. La communauté internationale, en particulier les États-Unis, le Canada, la France et le Core Group, seront responsables de toutes les personnes qui mourront en Haïti.
Cet homme qui, le 5 mars, menaçait Haïti d'une guerre civile et d'un génocide, si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionnait pas, s'appelle Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Cet ancien policier de 46 ans est l'un des chefs de gang les plus influents de l'île. Comment est-il passé de policier à chef de gang, Frédéric Thomas ?
C'est un chef de bande assez emblématique parce que c'est l'un des principaux, comme vous l'avez dit. C'est aussi celui qui se trouve impliqué depuis longtemps, depuis 2017 et surtout depuis le premier massacre de grande ampleur de La Saline, un quartier populaire de Port-au-Prince.
Où donc 71... c'était sous la présidence de Jovenel Moïse.
Oui, c'est bien cela. Et donc ça a été d'abord un policier qui a agi comme chef de gang et qui petit à petit a fédéré des bandes armées au profit du pouvoir en place de Jovenel Moïse pour casser le mouvement social qui alors se développait en Haïti.
Alors, ces gangs sont montés en puissance depuis ces années 2018 jusqu'à 2021. Michel Auriol, comment on explique cette montée en puissance des bandes armées criminelles ?
Il y a un point, enfin, il faut profiter de pour faire un point. Quand on entend la télévision ou la radio aux États-Unis ou en Europe, on a l'impression que c'est une pagaille sans objectif, alors que le pays n'a ni ethnie ni religion antagonique et que le seul élément, les deux seuls éléments explicatifs seraient la pauvreté ou les élites corrompues. Mais il faut tenir compte, je pense, et de la géographie et du temps quand on essaie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. D'abord, tout le monde parle de Port-au-Prince. En fait, il s'agit d'une région métropolitaine avec une douzaine de communes impliquées et qui représente le tiers de la population du pays. c'est le pôle le plus urbanisé, entre guillemets, du pays, qui s'est urbanisé dans un désordre effroyable pendant ces 30 dernières années. D'un autre côté, Haïti est exactement sur la trajectoire de tout ce qui est transport de drogue à partir du Venezuela, à partir de la Colombie, à partir du Mexique, vers les États-Unis ou vers l'Europe. Donc, on a l'image de gangs qui sont en train de kidnapper, etc. C'est pas qu'ils ne le font pas, mais leur raison d'être et leur naissance, même si par la suite ils se sont politisés, leur raison d'être, c'est le trafic de la drogue. Haïti est au cœur d'un crime organisé international, drogue, armes, voitures volées. Et je pense que c'est la première chose qu'on doit avoir en tête quand on pense à la situation sécuritaire aujourd'hui en Haïti. Il y a d'autres points, on peut en parler un petit peu.
On y reviendra tout à l'heure. Jacques Nézy, est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Auriol ?
Oui, pour compléter, je dirais que les gangs ont eu trois fonctions. Il y a trois générations de gangs, il faut le dire, puisqu'il y a eu une première génération 1995 de gangs, et puis ensuite 2004, et ensuite à partir de 2010. Alors la première fonction des gangs, c'est d'une part de limiter la contestation populaire, de l'autre, c'est d'accompagner aussi tous les acteurs politiques qui souhaitent conquérir le pouvoir et le garder. Et puis par la suite, ils sont aussi des alliés, même aux agents économiques, qui souhaitent violer les règles de la concurrence et s'imposer comme étant des monopoleurs. Donc les gangs, ils sont des alliés non seulement des acteurs politiques, mais également des agents économiques. Sauf qu'aujourd'hui, ils s'autonomisent par rapport à leurs anciens patrons, comme on dit, c'est-à-dire les politiques et les agents économiques, puisque maintenant, ils ont beaucoup de ressources par les opérations de prédation de toutes sortes, de captation, d'enlèvement, de doigts de péage, et il faut l'ajouter, c'est que les gangs sont un maillon de ce qu'on peut appeler l'activité criminelle en Haïti, c'est-à-dire le trafic de drogue, la vente d'armes de munitions, les médicaments contrefaits, le trafic d'organes et le trafic d'êtres humains.
On est à l'abri nulle part, disait sur RFI il y a quelques jours l'écrivaine haïtienne Evelyne Trouillot, quand on posait la question de l'insécurité à Port-au-Prince. Donc on est bien au-delà quand même de la capitale et des zones autour de la capitale.
Oui, disons qu'ils acquièrent un espace dominant, la capitale, la métropole, accompagnée, comme ça a été souligné tout à l'heure par Michel Auriol, c'est-à-dire les périphéries, et puis ensuite le département de l'Artibonite. Et ensuite, ils arrivent maintenant à faire en sorte que Port-au-Prince soit coupé des quatre départements, de l'Ouest, du Sud-Est, de la Grand'Anse et du Sud. Parce que comme ils instaurent des droits de péage, il faut payer sur les routes. Et puis ensuite, c'est eux aussi qui contrôlent toute la circulation du carburant et le vol des marchandises. Et il y a à peu près 2 semaines, par exemple, ils ont pillé des conteneurs de la douane qui totalisent une somme importante de 18 millions de dollars. La grande question, où vont ces marchandises? C'est-à-dire que ces marchandises sont au-dessus des marchés parallèles.
Frédéric Thomas, qu'est-ce qui a déclenché le regain de violence en Haïti au début du mois de mars ?
Je pense que ce sont deux facteurs contextuels. Le premier, c'est la perspective de l'envoi d'une mission internationale sous autorité kényane, d'une part, et d'autre part, l'échéance du 7 février 2024, date à laquelle, normalement, l'ex-premier ministre Ariel Henry s'était engagé à organiser une passation de pouvoir envers un président ou une présidente élue. Et non seulement il ne l'a pas fait, faute d'avoir organisé des élections en 2023, mais il avait aussi annoncé qu'il organiserait des élections en août, fin août 2025, ce qui supposait qu'il resterait encore 2 ans au pouvoir. Et donc ça a un peu mis le feu aux poudres dans un contexte de très grande impopularité et de rejet massif de ce gouvernement.
Pourquoi Ariel Henry était-il à ce point détesté par les Haïtiens, Michel Auriol ?
Il faut que l'on comprenne que les gangs, ils ont, comment dire, il y a le gars qui est dans la rue avec son arme de guerre, mais il faut savoir que Haïti, encore une fois, c'est une grosse machine de blanchiment d'argent de la drogue. Et qu'il y a des gens aussi bien dans la classe des affaires que dans la classe politique qui sont eux aussi directement liés au cartel de drogue. Il ne faut pas qu'on se trompe sur la nature de ce qui est en train de se passer. Ces revendications politiques, elles ne font que cacher les activités réelles. Et comme tout le monde tombe dans le panneau, et mon confrère parlait là de 95, que les gangs changent de nature. Non, ils n'ont jamais changé de nature. Et ils ont toujours été liés à des hommes politiques ou à des hommes d'affaires. Et je pense que jusque maintenant, nous cherchons un petit peu à savoir ce qui s'est passé et qui a provoqué ce regain de... Les Nations Unies appelaient ces gangs en 2004, quand ils sont intervenus, les combattants de la liberté. Ça leur a pris 20 ans. C'était pas une guérilla comme les FARC, etc. Mais on était vraiment dans un schéma, les maras, etc., comme ça se passe en Amérique centrale. Et la violence et la forme que prennent les violences. Il y a des formes de violence qui sont complètement inhumaines. Les têtes coupées, les mains coupées et les sévices que subissent les populations des bidonvilles. Et moi, je suis choquée lorsque les médias donnent la parole, aussi bien haïtiens que les vôtres, donnent la parole aux chefs de gang. On n'entend plus que les chefs de gang. Il faut bien, bien, bien comprendre que c'est une société qui a essayé de se transformer à partir de 86.
Frédéric Thomas, est-ce que la communauté internationale a une responsabilité dans la dégradation de la situation? Et est-ce qu'il faut remonter cette responsabilité à l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 ou beaucoup plus tôt à l'élection de Michel Martelly en 2011?
Oui, la crise actuelle en Haïti est le marqueur de la faillite de la communauté internationale, de l'échec de la stratégie poursuivie. On parle beaucoup qu'Haïti aurait été abandonné par la communauté internationale, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, la communauté internationale n'a cessé d'interférer dans les affaires intérieures d'Haïti, et ça depuis toujours. Mais on peut remonter en tout cas jusqu'à l'élection de Michel Martelly, dont l'ex-président Jovenel Moïse était le poulain. C'est une élection qui a été contestée, dans laquelle on a vu la main des États-Unis pour mettre en avant Michel Martelly. Et tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la corruption, la montée en puissance des gangs s'est accélérée à partir de la présidence de Michel Martelly. Et ensuite, ces gangs armés ont été utilisés pour répondre et pour casser le soulèvement populaire de 2018-2019 qui demandait des comptes par rapport à l'affaire de corruption Petrocaribe et un changement de système.
Jacques Nézy, tout à l'heure, Frédéric Thomas évoquait la force de sécurité internationale dont on attend le déploiement en Haïti. Donc cette force soutenue par l'ONU, financée par un consortium de pays dont les États-Unis et le Canada, avec pour mission d'épauler la police nationale haïtienne. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une ingérence étrangère de plus dans les affaires d'Haïti ?
On peut évoquer le terme ingérence, mais je suis tenté de parler d'interaction entre la communauté internationale et les acteurs haïtiens. C'est-à-dire que les deux ont une relation de connivence, dans la mesure où, par exemple, on sait très bien que l'international a une mainmise de tout ce qui se fait en Haïti, notamment depuis 1994, avec le retour de Jean-Bertrand Aristide et sous la domination américaine. Et puis depuis, cette domination s'est renforcée. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'institutions qui ont été établies, par exemple la réforme de la police, la réforme de la justice et les réformes économiques. Mais là où l'international a une part de responsabilité, c'est que très souvent, ils appliquent à Haïti des solutions importées et qui ne tiennent pas compte de certaines spécificités locales. Par exemple, quand on voit bien toute la politique, sans doute qu'on va en parler, de démobilisation, désarmement, réinsertion, cette politique, elle a échoué, le DDR, ainsi que la commission justice et réconciliation. Alors ça, c'est d'une part. De l'autre, c'est que les acteurs aussi locaux s'appuient sur l'international pour conquérir le pouvoir et le garder. C'est-à-dire, les acteurs intériorisent dans leur jeu politique cette domination. On dirait, on est dans le cas de la servitude volontaire. C'est-à-dire, ils sont prêts déjà à intégrer dans leur stratégie politique cette domination politique. Donc, du coup, les deux ont un retour, ont des gains à tirer de cette domination, l'international et les acteurs locaux.
Michel Auriol, vous qui vivez à Haïti, comment elle est perçue par la population, cette force multinationale, cette force de sécurité internationale, d'appui à la police nationale haïtienne ?
Bon, je crois que beaucoup de gens n'y croient pas trop. Il y a une familiarité, je dirais, avec les soldats américains, canadiens, français, etc. Et les gens, globalement, quand on leur parle, ils doutent beaucoup de la capacité du Kenya à gérer la situation. Moi, ma position, c'est que ce n'est pas simplement un problème de police qu'il y a à régler. Il faut se rappeler que quand les Américains ont débarqué en 1994 pour des raisons de politique domestique américaine, on a détruit le système de sécurité et de défense haïtien. Donc l'armée a disparu, la police rurale a disparu, et depuis lors, on essaye de bricoler une nouvelle police. Et cette police, c'est très difficile pour elle. Elle n'a pas de doctrine, une partie a été formée par des Américains, une partie par les Anglais, une partie par les Canadiens. Et elle a eu beaucoup de mal dès le début à se trouver une cohésion. Et comme les gouvernements successifs se sont reposés sur les forces internationales qui étaient sur place, on a pris l'habitude de déléguer le devoir régalien essentiel de l'État, la protection des vies et des biens, sur l'international. Donc quand les Nations Unies, les forces des Nations Unies sont parties sous Jovenel Moïse, donc cette prise en charge n'a pas pu être faite de façon correcte. Donc les gangs, oui, il y a une force, il y a une capacité d'intervention, il y a des destructions qui se font, mais en face, c'est extrêmement difficile pour la police toute seule, alors qu'il y a certains éléments qui auraient dû être réglés au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des douanes, etc. Et elle se retrouve seule à gérer la situation.
Frédéric Thomas, 2500 hommes kényans, mais aussi béninois, tchadiens, ou venus du Bangladesh, de la Barbade et des Bahamas, pour appuyer la police haïtienne. Est-ce que c'est suffisant pour ramener la sécurité à Haïti face à des gangs surarmés ? Et est-ce qu'il existe une solution alternative pour rétablir la sécurité sur place ?
Mais ce n'est ni suffisant ni pertinent. Il faut savoir que c'est l'ex-premier ministre illégitime Ariel Henry qui a fait appel à cette intervention, mais là se pose la question dans quelle stratégie nationale de lutte contre l'insécurité elle intervient, et pour venir en renforcement de quoi ? D'une police dont la hiérarchie était largement privatisée, politisée, dont on dénonce régulièrement la complicité avec les bandes armées. Le problème sécuritaire en Haïti, le nœud de ce problème, il est d'abord politique. C'est le lien entre, on l'a dit, l'élite économique et politique et ses bandes armées. Or, pour venir faire appel à une aide internationale, il faut d'abord qu'il y ait sur place un pouvoir qui ait une certaine légitimité, représentativité, qui fixe les conditions et les modalités d'une intervention extérieure pour lutter contre l'insécurité sur place, et pas faire comme à chaque fois, miser sur une stratégie internationale qui double les institutions publiques sur place et qui les contourne et qui contribue à leur affaiblissement.
Donc pour vous, il y a une solution haïtienne à la crise ?
Mais il faut d'abord avoir sur place un pouvoir qui est reconnu légitime, qui va fixer la feuille de route de cette intervention internationale, qui puisse l'accompagner, qui puisse la contrôler, qui fixe aussi les conditions de ces interventions, les priorités stratégiques, tout ce que, à l'heure actuelle, on n'a pas. Et donc il faut renverser les données du problème et partir d'abord d'une solution haïtienne en permettant à ce que les Haïtiens et Haïtiennes mettent en place un pouvoir dans lequel ils se reconnaissent et reconnaissent une certaine légitimité et qui lui sera à même de fixer la stratégie de lutte contre ces bandes armées.
Frédéric Thomas, Michel Auriol, Jacques Nézy, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite de Géopolitique. On continuera à parler de l'avenir d'Haïti.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Comment sortir de la logique de la violence qui s'est encore aggravée à Haïti ces dernières semaines? Le chaos est-il entretenu par l'impunité? Que faut-il attendre du futur conseil présidentiel de transition? Existe-t-il une solution haïtienne à la crise politique et sécuritaire? On continue d'en débattre avec la sociologue Michèle Auriol et les politologues Frédéric Thomas et Jacques Nézy. Jacques Nézy, on a l'impression que tout est à refaire en Haïti. Par quoi le futur conseil présidentiel doit-il commencer pour ramener le pays sur le chemin de la stabilité et le sortir de cette logique de la violence?
Oui, d'abord, il faudrait que ce conseil présidentiel soit légitime, c'est-à-dire qu'il soit accepté par la population. Le problème de ce conseil présidentiel, c'est sa composition qui ne reflète pas le corps social et politique haïtien dans sa totalité, parce qu'on retrouve un ensemble de partis politiques qui sont responsables de ce désastre actuel, et ce sont eux aussi qui sont les principaux membres de ce collège.
Comment aurait-il fallu composer ce futur conseil?
Il faudrait de préférence faire appel à des personnalités neutres, des figures neutres, et ceux qui ne sont pas partie prenante de la crise. Or là, on voit bien, et par exemple, ce sont des partis politiques qui ont gouverné depuis 10 ans, qui sont responsables, comme je le disais tout à l'heure, de cette tragédie, et ce sont eux encore qui se partagent le gâteau national, parce qu'en Haïti, il faut le dire aussi, l'activité politique, c'est une activité rentable, parce que c'est source d'accumulation de richesses garantie par l'impunité. Donc tous ces partis politiques entendent tirer leur épingle du jeu en vue de préparer les prochaines élections. Donc autrement dit, ils se partagent le gâteau national, les ministères, les directions générales. Pour répondre à votre question, la première tâche urgente de ce collège présidentiel, si ce collège arrive à s'installer, puisque c'est un projet qui a du plomb dans l'aile, et puisqu'on voit bien depuis 2 semaines, il n'arrive pas à s'entendre, il y a des désaccords entre eux, et là il renvoie après le week-end pascal pour s'installer. Or, il y a une urgence, donc ce qui prouve que cette classe politique, elle est complètement incapable, elle est complètement dépassée par les événements. Et puis, deuxième élément, la première tâche de ce conseil présidentiel, c'est de pacifier la société haïtienne. Or, pour pacifier cette société haïtienne, il faut une force coercitive sur laquelle ce collège devait s'appuyer. La police nationale n'est pas en capacité de le faire, la force internationale, les Américains en parlent depuis quelques mois, mais pour le moment, ça reste l'ombre de lui-même.
Alors, quelle solution trouver?
Mais quelle solution? Il faudrait très rapidement engager cette force multinationale pour accompagner le renforcement de la police nationale, de l'armée, puisqu'il faut le dire aussi, les Américains ne souhaitent pas la réforme de l'armée et les Américains imposent un embargo d'armes sur la police nationale. Pour terminer, il y a un tiers des agents de la police nationale qui sont partis dans le cadre du programme Biden, un tiers travaille avec les gangs, ont des liens incestueux avec les gangs, et un tiers avec des maigres ressources, mais sans cap. Puisqu'il faut le dire, Haïti pour le moment n'a ni Premier ministre, ni Président de la République.
Ni Parlement. Frédéric Thomas, il faut miser sur l'armée haïtienne, il faut refondre l'armée haïtienne, la renforcer, l'équiper.
Mais ça, c'est aux Haïtiens et aux Haïtiennes de le décider. En tout cas, ce qui serait nécessaire au-delà ou en dehors de cette mission internationale, c'est d'abord faire un véritable embargo sur les armes, parce que les armes continuent à affluer en Haïti. Haïti ne produit pas d'armes. L'essentiel de ces armes proviennent des États-Unis.
95% viennent des États-Unis, selon les experts.
Donc voilà, ce sont ces armes qui alimentent aussi la puissance des bandes armées. Donc il y a une grande responsabilité des États-Unis qu'on mette un embargo sur ces armes et que les États-Unis arrêtent les autres pays d'expulser les Haïtiens et Haïtiennes sur leur territoire vers Haïti, y compris surtout quand ces personnes sont impliquées dans des affaires criminelles ou des problèmes de drogue, comme Guy Philippe, qui a été expulsé des États-Unis après avoir purgé une peine de 6 ans pour trafic, blanchiment d'argent, de trafic de drogue, et qui alimente un peu plus l'insécurité en Haïti.
Et aujourd'hui, il joue quel rôle sur la scène politique, Guy Philippe? Ou il voudrait jouer quel rôle?
Mais un peu comme les autres chefs de bandes armées, il essaie de se donner une rhétorique politique, de se présenter comme un acteur politique, ce qu'ils ne sont pas, ce sont des acteurs criminels, mais ils essayent d'avoir un accès plus direct au pouvoir, d'où la crainte de la population aussi, parce que ces bandes armées, aujourd'hui, contrôlent des territoires densément peuplés, et c'est à une réserve d'électeurs potentiels en vue des prochaines élections qui leur permettrait d'avoir un accès direct au pouvoir, de s'assurer l'immunité et d'accélérer un peu plus la gangstérisation de l'État haïtien.
Michel Auriol, vous avez entendu tout à l'heure les critiques de Jacques Nézy sur la composition du futur conseil présidentiel de transition. Est-ce que vous partagez ces critiques? Qu'en attendez-vous, vous, de ce futur conseil présidentiel de la transition?
Bon, depuis l'apparition de l'idée donc, de ce conseil présidentiel, il y a une autre école de pensée qui dit « Restons sur ce qui est éprouvé, connu ». Revenons à la Constitution de 87 non amendée, dans laquelle la vacance présidentielle est claire, donc avec un juge de la Cour de cassation, et de là, éventuellement, avoir des structures d'appui à ce président provisoire qui désirait, donc, en consultation avec les forces politiques larges, un premier ministre. Bon, je crois qu'on est à un moment où il faut prendre des décisions rapidement. Ça va être très, très difficile d'arriver à la prise de décision avec un collège de 7 ou 9 membres. Je ne sais plus où on en est maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis lors.
Et selon vous, quelles devront être les priorités de ce futur conseil présidentiel ?
Évidemment, la sécurité, c'est le problème quotidien le plus important. Donc, il y a un souci immédiat de régler les questions de sécurité et il y a le souci de mettre en place les éléments qui permettent de renouveler le personnel politique. Et c'est deux gros chantiers qui demandent vraiment une énergie et une capacité de décision que je vois mal à l'intérieur d'un collège qui doit faire un consensus permanent sur la moindre des décisions. Mais d'une façon générale, c'est un mauvais signal que pratiquement un mois après le départ de Ariel Henry, ce conseil n'arrive toujours pas à se mettre en place et on se demande s'il sera en place un jour.
Alors, s'il est impossible pour le moment de vaincre des gangs surarmés, s'il refuse ces mêmes gangs de désarmer, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir composer avec eux, qu'ils sont incontournables, Frédéric Thomas ?
Ah, surtout pas, c'est l'un des enjeux de la transition. Il ne faut surtout pas leur donner un rôle politique qu'ils n'ont pas. Ils ont une rhétorique politique, mais ils n'ont aucune vision nationale, aucun projet politique.
En fait, ils n'ont pas envie de gouverner Haïti. Ils ont envie de continuer leur juteux business.
Voilà, de contrôler le territoire et se faire des ressources et s'assurer à travers un accès aux politiques, simplement l'immunité. Mais il faut que ces personnes-là soient jugées et emprisonnées pour qu'il y ait justice et pour qu'on rompe avec ce cycle de crimes, d'impunité et d'ingérence.
Mais pour qu'ils soient jugés, encore faut-il les arrêter. Qui pour les arrêter ?
Mais sur place, il y a évidemment, on en a parlé, il y a un manque de moyens de la police, il y a un manque de moyens de la justice, mais il y a surtout un manque de volonté politique. Et l'ex-premier ministre Ariel Henry, qui était au pouvoir, téléguidé un peu par la communauté internationale et soutenu à bout de bras par la communauté internationale, n'a rien fait contre cette impunité, n'a rien fait pour mettre en cause les liens entre ces bandes armées et l'élite économique et politique. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord dénoncer et enquêter sur ces liens. Il y a toute une série de personnes qui sont sanctionnées par le Canada, par les États-Unis, dont on retrouve les noms dans le comité de sanctions des experts de l'ONU, mais on n'arrive pas à mettre en branle une justice pour que ces personnes-là soient arrêtées et soient jugées. Donc le problème, c'est pas simplement les bandes armées, c'est le fait qu'elles jouissent d'une immunité et qu'elles bénéficient des liens avec des personnes qui sont haut placées au niveau politique et au niveau économique, et que ces personnes-là n'ont cessé d'être les principaux interlocuteurs de la communauté internationale.
Alors, quand on parle de gangs instrumentalisés ou financés par l'élite haïtienne, ça veut dire combien de personnes, combien de grandes familles, Frédéric Thomas ?
Écoutez, si on additionne les sanctions, les personnes sanctionnées par le comité d'experts de l'ONU, c'est l'ensemble des grandes familles haïtiennes qui contrôlent l'économie du pays sont reprises. Donc on sait qu'on est face à une économie très concentrée avec des liens structurels anciens entre cette élite économique et ces bandes armées. D'où aussi la difficulté. C'est une justice qui doit viser pas simplement certaines personnes, mais des liens structurels et un mode de gouvernance qui n'a cessé d'utiliser les bandes armées pour contrôler les territoires et pour s'assurer un réservoir de vote.
Michel Auriol, est-ce qu'il est imaginable qu'une amnistie soit accordée à ces bandes criminelles, ou est-ce que c'est totalement impensable pour les Haïtiens?
Je pense qu'on va trop vite quand on dit que ce sont les élites qui... Il y a une partie des élites qui sont impliquées dans les activités de crime et qui, accessoirement, vont utiliser ces gangs-là pour toutes sortes de choses plus ou moins illégales, mais que leurs liens avec les gangs sont intimes dans le sens où ils font partie aussi des réseaux de drogue. Ce n'est pas une élite qui se tient comme une élite politique ou économique et qui, de temps en temps, utilise un groupe ou un autre pour faire quelque chose. C'est un lien beaucoup plus profond, donc c'est consubstantiel et il ne faut pas faire l'erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Jacques Nézy, c'est l'impunité totale dont jouissent les gangs, les politiques véreux ou corrompus qui alimentent le chaos en Haïti.
Oui, la première explication, c'est l'impunité, comme vous l'avez dit. Mais cette impunité, elle est entretenue soigneusement, aussi gérée, pas par seulement les Haïtiens, mais aussi par les errements de la communauté internationale, notamment des Nations Unies. Par exemple, quand on prend cette initiative qu'a eu une représentante de l'ONU en Haïti, en encourageant la réunion des gangs en une sorte de confédération. Et il y a même un rapport des Nations Unies publié par la suite indiquant que le taux de criminalité en Haïti a diminué de 12% à la faveur de cette confédération des gangs. Vous voyez le traitement qu'on accorde, qui est un traitement complètement erroné. Et ce qui montre que, justement, les gangs se constituent comme étant des acteurs. Là, quand on voit un chef de gang, pour ne pas le nommer, parce que lui aussi, il tente de tirer ses marrons du feu de la surmédiatisation, en indiquant qu'il souhaite maintenant demander pardon à travers une amnistie. Or, on voit bien que la société haïtienne rejette cette solution d'amnistie, qui est encouragée aussi par une ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, et qui indique qu'on ne peut envisager aucune solution politique sans négocier avec ces gangs. Or, ce serait une solution catastrophique de donner une prime à cette violence et aussi de donner une prime à ces agents criminels et qui pillent, tuent, violent en toute impunité les populations haïtiennes. Alors, pour revenir à la question de l'international en Haïti a une grande responsabilité dans le désastre actuel parce que ce gouvernement d'Ariel Henry a été soutenu depuis 3 ans et cette communauté internationale a toujours été un obstacle à toute solution haïtienne. Parce que depuis 3 ans, il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile, par exemple, si on prend le cas de l'accord de Montana, qui ont proposé des solutions d'une transition, mais les différentes solutions proposées par les acteurs locaux n'ont jamais été validées par les États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, ils sont pris de court parce que la situation est complètement intenable. Et là, ils externalisent la crise haïtienne à travers la CARICOM. Or, on sait très bien, la CARICOM n'est qu'un pion des États-Unis d'Amérique.
La communauté des Caraïbes.
Voilà.
Vous êtes d'accord, j'imagine, Frédéric Thomas?
Oui, largement. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a la communauté internationale, les États-Unis en particulier, ont soutenu Ariel Henry en disant que c'était le plus légitime et qu'il fallait passer par lui pour avoir des élections et on ne pouvait pas se permettre une transition. 30 mois plus tard, on se trouve dans une situation qui n'a cessé d'empirer, sans élection et avec une transition qui doit se mettre en place dans des conditions beaucoup plus compliquées.
Est-ce que la diaspora haïtienne a un rôle à jouer dans l'avenir politique proche d'Haïti?
Oui, elle a un rôle à jouer, mais il y a des diasporas. Et donc, il ne faut pas croire que c'est un acteur unique, qui ne serait pas hétérogène. C'est un acteur très important au niveau économique. C'est la première source de revenus d'Haïti. C'est sûrement la raison pour laquelle le pays ne s'est pas encore complètement effondré. Mais au niveau politique, il n'a pas une voie unique. Il y a des divergences, beaucoup de divergences. Et donc, il ne faut pas non plus se leurrer sur le poids politique de ces diasporas.
Alors pour mettre fin à l'impunité, il faudrait sans doute reconstruire le système judiciaire haïtien. Existe-t-il dans le monde des exemples de coopération judiciaire internationale pour un État failli comme l'est Haïti, Frédéric Thomas?
Oui, je pense qu'il y a eu des, notamment en Amérique latine, des commissions de justice et vérité suite aux guerres civiles qui ont frappé le Guatemala, la Colombie, etc. Ce qu'il faut, c'est que la justice se fasse en Haïti par des tribunaux haïtiens et qu'ils soient accompagnés par l'international. Mais là encore, on est face à un défi de grande ampleur parce que c'est beaucoup de personnes à très haut niveau, au niveau économique et politique, qui sont jugées et qui ont bénéficié de la complaisance, sinon de la complicité de la communauté internationale. Donc ça supposerait aussi qu'il y ait un revirement diplomatique international qui vienne en appui à la demande de justice, à la soif de justice que n'ont cessé d'exprimer les Haïtiens et Haïtiennes.
On va pas dans ce sens-là ?
Non, pas du tout. Il y a même des signaux assez contraires qui sont envoyés, notamment Monsieur Jacques Nézy l'a dit, par l'ancienne ambassadrice des États-Unis. Et aussi le fait qu'on n'ose pas véritablement sanctionner, mettre sur la table les dossiers qui impliquent l'ancien président Michel Martelly, des hommes d'affaires, des premiers ministres. Et que au niveau de la justice haïtienne, il y a eu une volonté, c'est pas simplement qu'elle manque de moyens, c'est que Ariel Henry et ses prédécesseurs ont fait en sorte qu'elle n'ait aucun moyen, qu'elle soit court-circuitée pour permettre la reproduction des rapports de pouvoir au sein de cette élite.
Michel Auriol, c'est trop dangereux pour les juges, les avocats des victimes, les ONG qui se porteraient partie civile, d'organiser, de pousser à de tels procès pour juger les assassinats, les tortures, les enlèvements commis non seulement sous la dictature, mais aussi sous la présidence Aristide ou Martelly.
Très, très important de comprendre aujourd'hui que de même que la police a très, très gravement déstructuré, il en est de même de la justice. Donc, on voit souvent les procès politiques, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un bête problème de voisinage, il ne trouvera pas un juge pour se déplacer ou pour résoudre le problème. Ça veut dire que c'est un système qui s'est complètement effondré et qui ne rend plus les services minimum, enfin les choses les plus ordinaires que doit régler la justice. Et je pense que c'est l'une des choses qui alimente aussi, comment dire, une forme de colère dans la population haïtienne. C'est le quotidien qui est devenu difficile parce que pour les moindres petites choses, le système judiciaire, suite à des lois qui ont été produites par les missions internationales notamment, qui a refondu complètement l'organisation judiciaire du pays, on se retrouve dans une situation où la justice n'est plus administrée. Donc il faut vraiment aller en profondeur dans ces dossiers-là et faire attention à ne pas se laisser entraîner. Je comprends. Donc on a envie de grands procès politiques, mais il faut savoir que le quotidien n'est pas assuré. Moi, je pense plutôt à l'homme de la rue. On vient lui voler son bétail, sa récolte, etc. Et il n'a aucun recours.
Jacques Nézy.
Oui, il faudrait d'abord, oui, en termes de solution dans un premier temps, justement, eh bien, s'asseoir et décider de la gouvernance transitionnelle. Est-ce qu'on va avoir recours au juge de la Cour de cassation, parce que ce conseil présidentiel, il est complètement discrédité, incapable, inefficace, on le voit bien. Donc certains parlent du recours à la Cour de cassation, un juge de la Cour de cassation. Et puis deuxièmement, de mettre en place un certain mécanisme de la justice transitionnelle. Ça a été déjà expérimenté en 1994. On pourrait tirer tous les renseignements de l'échec, mais il y a aussi, ce qui était bien, c'est la mise en place de la commission Vérité de Justice, qui a permis d'identifier les bourreaux, d'identifier les liens aussi des crimes. Et pour pouvoir y parvenir, on voit bien, il faut reconstruire l'État, c'est-à-dire la police nationale, l'armée, la justice. Il faut reconstruire le système pénitentiaire. Donc il y a un chantier de reconstruction de l'État à envisager dans les meilleurs délais.
Michel Auriol, Jacques Nézy, Frédéric Thomas, merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique et merci au bureau de RFI à Bruxelles d'avoir permis ce duplex avec vous, Frédéric. Géopolitique a été réalisée par Nathalie Laporte et coordonnée par Cécile Lavolo, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site rfi.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. À bientôt, portez-vous bien.